Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, on est ensemble jusqu'à 9h. Écoutez, c'était sur le perron de Matignon hier soir.
On a décidé de faire des aides mensualisées, ciblées, on refuse toute forme de logique de chèques généraux ou de baisse massive de taxes.
Sébastien Lecornu, vous l'aurez reconnu, a enfin annoncé des aides pour les Français qui souffrent le plus de la crise des carburants. 20 centimes par litre pour 3 millions de personnes. Les travailleurs modestes qui roulent plus de 30 km par jour. Alors, il faut gagner moins de 17 000 euros par an pour une personne seule. Est-ce que vous rentrez dans ces critères? Est-ce que ça va vous soulager? Ou est-ce que vous êtes juste au-dessus, et là, franchement, c'est la douche froide. Venez témoigner et réagir, on vous attend au 3216. Vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs continuent aussi à être soutenus. Pas d'aide spécifique pour les infirmiers notamment, et ils sont en colère. Leur représentant sera avec nous à 7h40. Et là encore, si vous êtes infirmier, appelez-nous au 3216. Ces aides ciblées sont-elles suffisantes? Je poserai aussi la question dans le face-à-face au deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher, guerre en Iran également aussi, mais multiplication de candidatures à droite et au centre. Honnêtement, je compte presque ceux qui ne sont pas candidats, c'est plus simple. Gérard Larcher donc sera mon invité à 8h30 sur AMC et BFM TV. Il est 7h dans un instant de journal, mais d'abord la météo, Anthony. Ça se dégrade un peu à l'ouest.
Exactement, et ça veut dire qu'au nord et à l'est, on va conserver un temps très ensoleillé, un ciel tout bleu sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, la Franche-Comté. Ailleurs, de plus en plus de nuages, notamment de la Bretagne aux Charentes et du Massif central au sud-est, avec quelques petites averses, parfois orageuses, surtout cet après-midi. Nouveaux orages en soirée qui arriveront par les Pyrénées. Les températures, elles vont remonter sur la moitié nord. 20 degrés prévus à Paris et à Orléans cet après-midi. On partira de 15 à Cherbourg. C'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, avec encore 26 degrés à Bordeaux et à Toulouse.
Il est 7h, c'est l'heure du journal de Clara Gabillet.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le gouvernement ressort le chéquier face à la hausse des prix du carburant, des aides ciblées par secteur et pour les gros rouleurs. On va tout vous détailler. La tension redescend d'un cran au Moyen-Orient. Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Et puis Lens qualifié pour la finale de la Coupe de France de football après 28 ans d'attente. Victoire 4-1 hier soir contre Toulouse.
Un nouveau coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix du carburant.
Plusieurs aides détaillées hier donc par Sébastien Lecornu depuis le perron de Matignon. Les secteurs déjà aidés seront revalorisés. Les pêcheurs, les agriculteurs, les routiers seront bientôt soutenus aussi, le BTP et les taxis, mais donc aussi les gros rouleurs. 3 millions d'entre eux auront droit à une aide de 20 centimes par litre en moyenne. Ce sera sous condition de revenus et en fonction des kilomètres parcourus. Dispositif détaillé hier sur France 2 par Roland Lescure, le ministre de l'Économie.
Ça veut dire pour une personne seule, en dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible. Pour un couple avec deux enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an.
Ce sont les 50% des foyers les moins aisés.
Les moins aisés, par catégorie. Couple avec enfants, couple sans enfants, mère célibataire, évidemment, on tient compte de tout ça. Ensuite, il faut utiliser sa voiture, soit pour aller travailler, et là, le niveau qu'on a fixé comme seuil, c'est au moins vers 30 km par jour pour aller travailler. Mmh. Ou à l'inverse, si vous utilisez votre véhicule pour travailler, on a parlé d'aide-soignante, d'infirmière, etc. Là, c'est 8000 km par an pour des activités professionnelles.
Et pour ça, il faudra déclarer ses kilomètres sur le site des impôts. Ce sera possible fin mai et ce sera rétroactif. Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC, en direct avec nous. Il y a donc de nouvelles aides, mais on voit bien que tout le monde n'y aura pas droit.
Oui, et le gouvernement assume de garder le pied sur le frein, même si c'est quand même un changement de braquet. Jusque-là, on ne parlait que d'être très ciblé sur des secteurs spécifiques. Cette fois, ça va quand même concerner 3 millions de personnes et sans se limiter à certaines professions. La solution, c'est du sur-mesure, continue de répéter le Premier ministre, qui refuse de distribuer un chèque général sans condition et encore plus de baisser les taxes comme le réclame le RN. Ça aurait un effet épouvantable sur les finances publiques, alerte Sébastien Lecornu, dans un contexte déjà très compliqué. Il va déjà falloir rogner au moins 6 milliards de dépenses dans le budget en cours. Et davantage encore si la guerre continue, d'où ce cadre assez strict, notamment en termes de revenus. La gauche demande déjà à élargir la cible pour toucher davantage de classes moyennes. et demande à aller piocher dans les super profits des pétroliers.
Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC. Les Français boudent un peu plus le livret A qui connaît son pire mois de mars depuis 2009. Ils ont retiré le mois dernier 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé, annonce la Caisse des dépôts. Son taux a été ramené en février à 1,5%. Donald Trump prolonge finalement le cessez-le-feu, lui qui menaçait hier de reprendre les bombardements sur l'Iran. Cessez-le-feu prolongé jusqu'à nouvel ordre, Lou Garnier. Le président américain laisse la porte entrouverte pour des pourparlers.
Oui, sur son réseau social, Donald Trump annonce prolonger la trêve pour laisser du temps à l'Iran, qui fait face, selon lui, à de graves divisions au sein de son gouvernement, de présenter une proposition. Mais il ne faut pas s'y tromper, selon le vice-amiral Michel Olagaray.
C'est Trump qui a reculé. C'est lui qui fixait les trêves avec les dates butoirs. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de butoir. Personne ne s'y trompe. Les Iraniens, encore moins que les autres, ils ont manifestement marqué un point.
D'autant plus que le président américain est pressé, selon lui.
Il se trouve que Trump est acculé par un agenda particulier. Au bout de 60 jours après le début d'une guerre, le président américain doit présenter ses buts, ses objectifs devant le Congrès. C'est très bientôt. La popularité de Trump est sévèrement érodée, y compris dans sa base MAGA. Il veut des victoires, il est pressé.
Donald Trump est pressé et espère asphyxier l'économie iranienne, déjà très affectée, selon le spécialiste, en maintenant le blocus des ports iraniens, et avec comme objectif de ramener l'Iran autour de la table des négociations en vue d'un accord de paix.
Que s'est-il passé hier à Castres, dans le Tarn? Des coups de feu ont été tirés en plein après-midi sur le parking d'une clinique. Il y a un mort et deux blessés. Romain Houg, en direct pour RMC, une fusillade qui concerne des membres d'une même famille.
Oui, c'est le début d'après-midi quand deux cousins se retrouvent sur le parking de la clinique du Cidobre, relate le journal La Dépêche, pour régler un différend familial. Une histoire de voiture brûlée le week-end précédent dans un quartier de la ville. Une troisième personne, le frère de l'un d'entre eux, venu de Toulouse pour jouer les médiateurs et tenter d'apaiser la situation, qui va en fait dégénérer très rapidement. Des coups de feu sont tirés, les témoins parlent d'une scène de chaos. Le Toulousain de 44 ans, touché par deux balles, meurt de ses blessures dans la soirée. Un autre protagoniste est blessé par arme blanche, le troisième par un éclat de tir. Quatre individus âgés de 17 à 42 ans, dont le tireur, ont été placés en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, ce qui pourrait vouloir dire que l'acte aurait été prémédité.
Explication de Romain Houg pour RMC à Sarcelles dans le Val d'Oise. Trois policiers sortis de garde à vue, ils sont soupçonnés de viol et de violence sur un homme gardé à vue pour détention de stupéfiants, des soupçons qui sont classés sans suite. Pour les trois fonctionnaires, l'enquête se poursuit. Il est 7h06, une qualification historique. Le RC Lens valide son ticket pour la finale de la Coupe de France. Victoire 4-1 des 100 heures contre Toulouse. Victoire sans trembler. Jean Baumel, cela faisait 28 ans qu'il l'attendait.
À la fin du match, le Stade Bollaert a explosé de joie et les supporters ont envahi la pelouse pour fêter la qualification en finale de la Coupe de France.
Oh, c'est magnifique, c'est un pur bonheur. Finale les amis, finale, truc magique.
C'est majestueux, mais Lens le mérite largement.
Un match de fou, du début à la fin. On a vu qu'ils ont poussé, qu'ils ont voulu nous donner la victoire.
Le capitaine lensois Adrien Thomasson savoure ce moment rare.
On avait à cœur de forcément de se qualifier, d'emmener tout le peuple lensois au Stade de France. Et en plus de ça, avec la manière, je pense que c'est chose faite. Et c'est magnifique, mais pour moi, ça sera seulement exceptionnel si on gagne la finale parce qu'on aura à cœur de gagner cette première Coupe de France pour le club.
La dernière finale des 100 et or date de 1998. S'ils avaient perdu contre le PSG à l'époque, cette année, ils veulent gagner le défenseur Mathieu Udol.
On sait qu'il reste une étape très importante. On a rempli notre mission. Nous, ce qui nous importe, c'est de ramener un trophée cette saison.
Le 22 mai, au Stade de France, Lens sera opposé à Strasbourg ou Nice, qui s'affrontent ce soir.
Et autre affiche ce soir, cette fois-ci en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Nantes. C'est à 19h. Et puis en NBA, de l'inquiétude autour de Victor Wembanyama qui s'est écroulé sur le parquet cette nuit pendant son match contre Portland. Son visage a tapé contre le sol. Le basketteur français sorti sur commotion cérébrale. Il est sorti en marchant. Celui qui vient d'être sacré meilleur défenseur de la saison doit être réexaminé par les médecins dans 48 heures.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h07 sur RMC. Évidemment, on continue à attendre vos réactions et vos appels sur ces aides ciblées sur les gros rouleurs. Mais notez-le, il y a aussi d'autres nuages noirs sur l'économie française. Les intentions d'embauche sont en net recul cette année, moins 6,5% selon France Travail. Bonjour Eric Ayer. Vous êtes économiste. Bonjour. Les perspectives pour les entreprises ne sont pas bonnes. C'est votre parti pris ce matin. Vous nous dites que la guerre au Moyen-Orient pourrait encore aggraver la situation sur le front de l'emploi. On en parle dans un instant. Vos réactions également et vos témoignages au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11, très bon réveil à tous, enfin très bon réveil. Je vous avoue que les nouvelles ne sont pas forcément excellentes. Inquiétude sur le front de l'emploi, moins 6,5%. Les intentions d'embauche en 2026 sont en net recul et c'est France Travail qui le dit. Bonjour Eric Heyer. Vous êtes économiste. Bonjour. Pour l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et avec la crise au Moyen-Orient, ces perspectives déjà mauvaises d'embauche pour les entreprises vont empirer. Voilà votre parti pris ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises rechignent à embaucher ?
Alors, il y a deux éléments. Il faut voir d'abord l'élément un peu structurel, c'est-à-dire que même sans le conflit iranien, il y aurait eu des destructions d'emplois en 2026, comme il y en a eu en 2025. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, le marché du travail s'est très bien porté pendant la crise sanitaire et les années 2022-2023. Et donc, pourquoi ? Parce que, en gros, il y avait énormément d'aides de l'État, à la fois pour l'apprentissage, mais aussi pour les entreprises. Et donc, on a sauvé énormément d'entreprises qui auraient dû faire faillite normalement. C'est ce que Bercy appelle la zombification de l'économie. Et donc, on a sauvé de l'emploi en sauvant ces entreprises. Mais petit à petit, ça a creusé les déficits et les salariés également avaient un peu perdu en pouvoir d'achat. Et donc, petit à petit, les salariés réclament un rattrapage du pouvoir d'achat. Et puisque l'État est obligé de résorber son déficit, ben les aides s'arrêtent. Et donc, là, globalement, on était arrivé à un moment où la demande était relativement stagnante et les entreprises ont décidé de refaire de la productivité, c'est-à-dire globalement d'ajuster l'emploi à leur activité. Et donc, globalement, il y avait des destructions d'emplois qui étaient déjà à l'œuvre.
J'ai presque l'impression quand je vous écoute, et évidemment on va en venir à ce qui se surajoute à ça, qui est évidemment la guerre en Iran. Mais ça veut dire, quand vous dites la zombification, ça veut dire qu'en fait c'était des entreprises qui n'avaient pas un rapport au réel, parce qu'elles étaient artificiellement maintenues en vie en quelque sorte, ou qu'elles avaient reçu des prêts de l'État. Et là, se confrontant au réel, bah, elles sont obligées d'écrémer.
Oui, c'est ça. C'est les entreprises qui auraient dû faire. Vous voyez, en France, il y a à peu près 55 000 défaillances d'entreprises chaque année. Ça, c'est une année normale. Donc, une bonne année, généralement, vous descendez à 45 000. Et puis, les mauvaises années, vous montez jusqu'à 60, 65 000 défaillances. Pendant les années 2020, 21, 22, 23, c'était des années relativement mauvaises. On est descendu à 20 000, 22 000 défaillances d'entreprises. Donc, vous voyez que on a sauvé beaucoup d'entreprises qui auraient dû faire défaillance s'il n'y avait pas eu la crise. Bah, ces entreprises-là, quand on les sauve, on sauve également l'emploi. Mais petit à petit, lorsqu'il faut qu'elles remboursent les prêts garantis par l'État et lorsqu'elles ne sont plus aidées, malheureusement, elles font défaillance. Mais allez, globalement, on leur a laissé 3 ans de vie supplémentaire.
Donc c'est une forme de rattrapage. C'est une forme de rattrapage.
Exactement.
La question, évidemment.
C'est une forme de rattrapage.
J'ai deux questions en particulier. L'une, évidemment, sur le contexte géopolitique qui se surajoute donc à ce moment, en quelque sorte, du choc du réel. Et puis la question, évidemment, des chiffres du chômage. Le chômage d'abord, est-ce que ça veut dire concrètement que ça va se traduire dans les chiffres du chômage qui vont mécaniquement augmenter ?
Oui, mais là aussi, c'est une tendance depuis 2023. C'est-à-dire que depuis 2023, le chômage augmente, alors pas rapidement, mais il augmente régulièrement, puisque globalement, on avait réussi à baisser le chômage jusqu'à 7,1. Puis là, petit à petit, ça réaugmente. Et ça devrait continuer. Et on devrait atteindre, à la fin de l'année, 8,3% de chômage. Donc, on revient pas au niveau qui était le sien dans les années 2012-2013. Mais, allez, petit à petit, le chômage repart à la hausse.
Et dans cette situation déjà de fragilité, l'arrivée de la guerre, quel peut en être ensuite l'impact ?
Alors la guerre va va bien entendu aggraver la situation par deux conséquences. D'abord, la première, c'est direct, c'est-à-dire c'est une augmentation des prix de l'énergie. Donc, lorsque les prix de l'énergie augmentent, eh ben l'inflation revient. Et lorsque l'inflation revient, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Et donc, les carnets de commandes, qui étaient déjà relativement faibles, ben, vont être encore un peu plus faibles. Et donc ça, ça va avoir une incidence sur la demande. Et le deuxième canal de transmission, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on est dans un monde très incertain et encore plus incertain vis-à-vis de ce qui peut se passer dans le détroit d'Ormuz. Et donc, cette incertitude va se traduire par des intentions d'embauche qui vont être un peu moins dynamiques. Et donc, là aussi, ça va aggraver la situation sur le marché du travail.
Merci pour ces mauvaises nouvelles, cher Eric. Et merci quand même de nous avoir aidé, évidemment, à les comprendre davantage. Vous êtes le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Dans ce contexte, évidemment, comme vous le disiez, la question du prix des carburants et ces aides qui ont été annoncées hier soir, alors des aides très ciblées. Et puis, il faut rentrer dans la case, et notamment pour tous ceux qui travaillent et qui sont des gros rouleurs qui vont travailler en voiture. Il faut gagner moins de 17 000 euros par an. Lucie nous appelle. Bonjour Lucie. Vous Bonjour. Êtes agent immobilier dans la région de Troyes, dans l'Aube. Vous rentrez dans les critères, vous, ou pas ?
Bonjour, non, pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout, dans le sens où, voilà, je suis mariée, deux enfants, on travaille tous les deux et on rentre pas dans les critères. Alors, quand on entend les critères, 30 km pour être un gros rouleur, moi j'en fais 100 par jour pour aller travailler.
Donc, ouais. C'est dur ?
Bah, forcément, c'est-à-dire que on se dit qu'on gagne pas trop mal notre vie et au final, ça nous appauvrit de plus en plus et on paye nos impôts, etc. Et on se rend compte qu'on gagne de moins en moins et que notre train de vie reste peut-être au même niveau que des gens qui, voilà.
Ce que vous voulez dire, et j'essaie de comprendre, Lucie, c'est que vous vous dites en fait que vous gagnez trop pour être aidé, mais pas assez pour vous en sortir vraiment bien.
C'est ça.
Et ça, Mathieu, on sent que c'est vraiment la réaction depuis ce matin.
C'est ce qui revient le plus ce matin, ce sentiment d'être soit juste en dessous des seuils, par exemple, j'avais quelqu'un qui me parlait de 6500 km alors que c'est 8000 km par an, soit surtout d'être au-dessus des planchers, justement au niveau des revenus. Exactement le témoignage de Lucie, de gagner trop, je mets des guillemets à trop, pour pouvoir être aidé.
Lucie, vous avez calculé, ça vous revient à combien de plus là, vous allez mettre combien d'avantages dans vos plaints depuis le début de la guerre ?
C'est 20 euros c'est 20 euros toutes les semaines en plus, en gros.
Ça fait quand même beaucoup, effectivement. Hein. Et donc 20 euros.
C'est 4 pleins par mois minimum.
4 pleins par mois minimum. Donc effectivement, et si vous n'avez pas les aides, et vous ne les aurez pas, en effet, malheureusement, j'ai pas la bonne nouvelle à vous annoncer là-dessus, Lucie. Vous êtes au-dessus des critères, visiblement. Merci en tout cas, Lucie, pour votre réaction. Comme Lucie, vous n'hésitez pas. Est-ce que ces aides sont à la hauteur de vos espérances ? Est-ce que vous estimez qu'elles manquent leur cible ? Le 32-16 vous est ouvert. Il est 7h19 et l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'une des affaires les plus obscures de la 5e République pourrait être réouverte.
Oui, un ministre qui s'est officiellement suicidé dans 50 cm d'eau à la fin des années 70, sauf qu'un témoignage a relancé l'enquête.
L'affaire Boulin, vous y revenez dans un instant. Et puis Arnaud, demain, je viendrai pirater le face-à-face. Il est 7h19, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
L'une des affaires les plus mystérieuses et obscures de la 5e République, l'affaire Robert Boulin, du nom de ce ministre retrouvé mort dans une forêt il y a 47 ans. Et aujourd'hui, sa famille reprend espoir.
Oui, sa fille Fabienne n'a jamais cru à la version officielle du suicide. Elle est convaincue que son père a été assassiné. Alors la nouveauté, c'est que cette affaire devrait être transmise au pôle Cold Case. Le pôle Cold Case, c'est le pôle national des crimes non élucidé. Ça relance complètement l'affaire Boulin. Fabienne Boulin-Burjat l'a dit hier, c'est un grand espoir. Elle demande que la justice fasse son travail.
Qui était Robert Boulin ?
Alors Robert Boulin, c'était un ancien résistant qui va faire une bonne carrière politique dans les années 1970. C'est un proche du président Valéry Giscard d'Estaing. C'est même un de ses ministres. Un homme intègre, travailleur, un vrai serviteur de l'État. Sauf que tout va basculer le matin du 30 octobre 1979. On retrouve son corps dans un étang de la forêt de Rambouillet.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors d'après l'autopsie, ça ne fait aucun doute dans un premier temps. C'est un suicide. Boulin se serait noyé après avoir pris du Valium. Alors évidemment, cette explication n'est pas très convaincante quand on regarde de près. Voilà pourquoi, premièrement, le visage de la victime était tuméfié, donc c'est un peu comme si on lui avait tapé dessus. Deuxièmement, on retrouve effectivement du valium, mais dans son sang, pas dans son estomac, ce qui voudrait dire qu'il l'a pris vraiment très très peu de temps avant de mourir. Là encore, pas très crédible. Et alors, le plus louche, hein, c'est la profondeur de l'étang, 50 cm, un peu juste pour se noyer quand même.
Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu se suicider ?
Alors effectivement, Boulin était sous la pression médiatique depuis plusieurs semaines à cause d'une sorte d'arnaque immobilière un peu compliquée dans laquelle il se serait retrouvé, mais par erreur. Bon, alors effectivement, c'était pas très agréable. Mais sa carrière n'était pas en danger non plus. Hein.
Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait voulu le tuer, Alain ?
Alors voilà, ça c'est l'autre version. Parce qu'à la fin des années 1970, il y avait une guerre des droites entre Valéry Giscard d'Estaing d'un côté et un jeune loup de l'autre qui s'appelait Jacques Chirac et qui venait de fonder son propre parti politique. Ce parti, ça s'appelait le RPR. Et Boulin aurait justement été au courant de financements illicites de ce parti. Raison donc pour laquelle on aurait voulu l'éliminer. Alors je précise qu'à ce stade, tout ça n'est qu'une hypothèse qui n'a jamais été confirmée par la justice.
Et en 2022, nouveau coup de théâtre.
Et oui, plus de 40 ans après les faits, un témoin apparaît, hein, il a 75 ans, et il raconte avoir entendu des hommes parler de l'assassinat de Robert Boulin dans un club libertin. Il désigne même un individu comme l'assassin, alors sauf que cet individu serait mort en 1986. Ce témoignage est si crédible qu'on va tenter d'intimider ce nouveau témoin en allant jusqu'à tirer à coups de pistolet sur sa maison. Alors ce témoin est justement mort de mort naturelle il y a quelques semaines, hein, mais il a livré des secrets qui pourraient mettre les enquêteurs sur de nouvelles pistes. La famille de Boulin attend justement qu'on les exploite.
Incroyable histoire. Merci Arthur Chevalier, l'historien. Merci d'Apolline Matin. Il est 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Il arrive en courant, Arnaud Demanche. Mon invité tout à l'heure, ce sera le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher.
Oui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le grand sage de la droite, c'est le Bouddha des LR. Il arrive, tiens, voilà du Bouddha. Alors, je dis pas qu'il y a des passe-droits dans cette radio, mais d'habitude, Apolline, quand on reçoit un invité, en loge, il y a du café, deux, trois chouquettes. Là, en loge, il y a un civet de lièvre.
Ah, c'est vrai?
Dans un plat en argent. J'ai vu Mathieu Béliard amener des chariots en entrée, Achille Venaison et l'emploi en galantine. Parce que Mathieu, dès qu'il y a l'occasion de cuisiner des trucs dégueux, il est là. Les adhérents LR ont donc choisi Bruno Retailleau comme candidat. Un plébiscite, Apolline. 73%. 73%. Des 12 militants LR ont voté pour lui, pour sa famille. Non, en vrai, Retailleau, il a eu 34 000 votants sur 46 000. 34 000 voix. Bravo. Avec ça, tu peux être élu. C'est pas maire de Ponto Combo, des tas de trucs au deuxième tour. Pour la présidentielle, il en manque un peu quand même. Hein. Faut qu'il accélère, Bruno. Allez, quitte ta femme. Épouse une princesse. La mode est aux princesses. Fais une paparazza d'où tu la touches pas, comme Bardella. Tu sais, Bardella et Maria Carolina, c'est frisqué hein, sur les photos. Ils se touchent pas. Tu sens que s'ils font un enfant, ils vont le concevoir. Il y aura un drap avec un trou entre les deux. Oh, allez, Bruno, une paparazza d'au Puy du Fou avec Philippe de Villiers en robe qui porte une perruque. Bruno, t'es sûr que c'est une bonne idée? Ouais. Et puis alors, Apolline, vous interrogerez Gérard Larcher sur la guerre en Iran.
Oui.
Car le détroit d'Hormuz est toujours bloqué. Eh oui. Aïe, aïe, aïe.
Oh là là.
C'est bien compliqué tout ça. Bah ouais.
Ouf, ouf, ouf.
Non mais, des fois il est ouvert. Et des fois il est fermé. Bah, ce matin, par exemple, il était fermé.
Ah ouais, voilà.
Peut-être que demain il sera ouvert. On voilà, peut pas savoir. Enfin, l'important c'est d'avoir la santé. Hein, voilà. Ça va, Apolline, vous ?
Bon,
ça
pas mal, pas mal. Et
alors vous, sur la guerre,
bon.
Non, moi, sur la guerre, le gouvernement a annoncé des aides sur l'essence. Alors pour en bénéficier, vous devez avoir peu de revenus et être un gros rouleur. Autant de vous dire que Doc Gynéco va se régaler. Vous verriez ce qui se roule. Et sans bagnole encore. En régie, c'est pareil. Hein. Ils ont ouvert le champagne. Enfin, une 8-6 pour fêter ça. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. Allez, j'entends allez. Gérard Larcher. Je crois qu'il y a Gérard Larcher dans les couloirs.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signaux blancs bien poirés? C'est la mousse douce, non mire la pétille.
Eh ben il est là, il est parti. Rendez-vous avec Gérard Larcher à 8h.
Merci Arnaud de Manche, que l'on retrouve tout à l'heure à 8h15. Il est 7h26 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis, notez à 7h40 cette question, évidemment, des chèques. Enfin, c'est pas des chèques, c'est des aides. Des aides ciblées pour les gros rouleurs, mais vraiment les plus modestes. Le gouvernement accélère sur les aides à la pompe, sauf qu'il y a de nombreux professionnels qui se sentent oubliés. C'est le cas notamment des infirmiers. Le représentant des infirmiers libéraux sera en direct avec nous, mais j'attends aussi tous vos témoignages au 32-16. Est-ce que ces aides vous concernent? Est-ce que vous allez réussir à les toucher? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes juste au-dessus des seuils? Témoignez aussi de ce que ça a changé dans votre vie, les prix du carburant. Et puis notez qu'à 7h50, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. A tout de suite. 7h29, la météo sur RMC, ça se gâte un peu.
Oui, au sud et à l'ouest essentiellement, avec quelques passages nuageux, notamment entre la Bretagne, les Charentes, le Massif central, le Languedoc, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Quelques averses déjà ce matin. C'est surtout au cours d'après-midi que ces averses vont prendre un peu plus de vigueur avec quelques coups de tonnerre, notamment vers l'Ardèche, la Lozère ou encore la Corse. Nouveaux orages en soirée sur les Pyrénées. Mais au nord et à l'est, entre Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, plein soleil, ciel tout bleu, avec toujours cette petite bise qui souffle. Les températures cet après-midi, en hausse sur la moitié nord, vous aurez 18 à Lille, 20 à Paris. Et au sud, on sera entre 19 et 26 degrés, 26 pour Bordeaux et Toulouse.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Un couteau entre les cahiers et la trousse. 800 armes blanches ont été retrouvées dans les cartables d'élèves en un peu plus d'un an. Les syndicats alertent sur un sinistre phénomène de mode. Une nouvelle aide carburant au compte-gouttes, peu importe le métier, mais réservée aux travailleurs modestes. Seuil à peine au-dessus du SMIC qui fait bondir les oppositions. Et en foot, les remplaçants parisiens de sortie pour affronter Nantes en match en retard de Ligue.
Le fléau des armes blanches à l'école, en un chiffre, les forces de l'ordre en ont retrouvé plus de 2 par jour en moyenne depuis février.
Depuis que policiers et gendarmes fouillent des cartables à l'entrée des établissements. Bilan dressé par le ministre de l'Éducation nationale, Bérangère Bocquillon, ce sont précisément 800 couteaux ou cutters qui ont été saisis.
Un chiffre beaucoup trop élevé pour Jean-Rémy Girard, professeur de lycée et président du syndicat de l'éducation SNALC.
Ça fait beaucoup d'armes blanches dans les sacs de nos élèves. Il y a quand même une sorte de phénomène de mode qui est en augmentation.
Sans compter que des chefs d'établissement découvrent aussi des couteaux en dehors de ces fouilles, comme Nicolas Bonnet, proviseur d'un lycée professionnel à Libourne et membre du syndicat SNP2N UNSA. Il a exclu un élève en mars dernier.
On a eu des témoignages de jeunes comme quoi l'un de leurs camarades les avait menacé de se servir d'un couteau. On lui a demandé de sortir ses affaires et effectivement, il avait un couteau sur lui.
Provocation, besoin de se sentir en sécurité. Dans cette affaire comme dans d'autres, ces armes blanches sont pour ce proviseur le résultat de discours anxiogènes et d'un trop-plein de réseaux sociaux.
Là, on était dans un problème psychologique. On a besoin non pas de détecteurs de métaux à l'entrée de nos établissements, on a besoin de détecteurs d'élèves en souffrance.
Depuis l'an dernier, un conseil de discipline est systématiquement convoqué lorsqu'un élève est repéré en possession d'une arme blanche.
À Bérangère Bocquillon pour RMC. C'est notre mission du matin, comprendre qui aura le droit aux nouvelles aides carburant annoncées par le gouvernement. Faisons le tri ensemble. D'abord, on prend les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Un coup de pouce existait déjà pour eux. Il va être rehaussé d'environ 10 centimes par litre. Et puis, nouveauté, une aide pour les travailleurs modestes dits gros rouleurs. Ça veut dire ceux qui, peu importe leur métier, habitent à plus de 15 kilomètres de leur boulot ou alors qui font 8000 kilomètres par an. Et encore, il faut pour une personne seule gagner moins de 1500 euros net par mois. Réaction des oppositions en trois mots, Cyprien Pézeril peut mieux faire.
Une aide d'environ 20 centimes par litre pour les gros rouleurs, bien peu, déplore le député Rassemblement National Mathias Renaud.
20 centimes, c'est insuffisant parce que vous avez plus de 50 centimes d'augmentation depuis quelques semaines.
Pas de chèque pour tous, mais une aide ciblée. Le gouvernement poursuit cette stratégie. Seuls les actifs aux revenus modestes seront concernés. Par exemple, une personne seule doit gagner moins de 17 000 euros par an. Il faut élargir la cible, réclame le socialiste Philippe Brun.
C'est tout à fait insuffisant, en vérité. Il y a beaucoup plus de 3 millions de personnes qui vivent aujourd'hui cette explosion des prix, notamment du gasoil. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin.
Même colère de l'insoumise Aurélie Trouvé.
On est dans les vacances de Pâques. Il y a des gens qui ne viennent pas voir leur famille parce que
ils n'ont pas l'argent pour faire l'aller-retour.
Pour cette députée France Insoumise, des ressources existent pour aider davantage les automobilistes.
Il n'y a aucune volonté de toucher aux super profits des profiteurs de cette guerre, Total et les grands pétroliers. C'est incompréhensible que le gouvernement en soit là à ne rien faire.
Le Premier ministre qui néanmoins n'exclut pas d'autres annonces en fonction de l'évolution de la crise.
Et dernier détail, pour obtenir cette aide, il faudra faire une déclaration en ligne sur le site des impôts. La plateforme sera mise en place d'ici fin mai, mais elle sera rétroactive et prendra en compte le mois d'avril.
Et vous, est-ce que vous êtes gros rouleur? Est-ce que vous êtes sous la barre des 17 000 euros par an? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes hors de ces critères? Appelez-nous pour réagir et pour témoigner au 32-16.
L'actualité, c'est aussi cet énième revirement de Donald Trump. Le président américain a finalement prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran hier soir. Il dit attendre une proposition de paix de Téhéran, mais il maintient le blocus américain du détroit d'Ormuz, détroit dans lequel on vient de l'apprendre, des tirs iraniens ont visé un porte-conteneur au large d'Oman. L'équipage du bateau est sain et sauf. Sur l'autre front, entre le Hezbollah libanais et Israël, à Paris hier, le premier ministre libanais a réclamé le retrait des troupes israéliennes de son pays, ainsi que le retour chez eux des prisonniers et des déplacés libanais. Il l'a dit aux côtés d'Emmanuel Macron, qui a posé des conditions pour consolider la trêve en cours.
Cela implique que le Hezbollah cesse de viser Israël et de prétendre se substituer à l'État dans l'exercice de ses prérogatives. Cela implique aussi qu'Israël renonce à ses visées territoriales et comprenne que la condition de sa sécurité est un État libanais fort et non une politique du chaos. Dans cette période difficile, nous devons aussi préserver l'avenir et la résilience du Liban. La France s'engagera pour la reconstruction des zones touchées par les bombardements.
Et des négociations de paix Liban-Israël sont prévues demain à Washington. On vous en parlait hier, le gouvernement a finalement affiné ses chiffres sur la cyberattaque qui a visé l'Agence nationale des titres sécurisés. Près de 12 millions de comptes ont été touchés par ce vol de données sur ce portail où l'on fait nos demandes de permis de conduire ou de pièces d'identité. Le foot et le Paris Saint-Germain qui devrait vider son banc ce soir contre le FC Nantes. Match en retard de Ligue 1 lors duquel on devrait voir un 11 titulaire atypique. Les têtes déjà en partie tournées vers la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Sarah Bellienne.
Trois jours après la défaite contre l'Olympique Lyonnais, le PSG veut rebondir ce soir contre Nantes avec certainement des joueurs plutôt habitués au banc de touche. Luis Enrique, l'entraîneur parisien.
On a gagné tout ce qu'on a gagné l'année dernière grâce à ce type de joueurs qu'on a eu comme remplaçant. Ils sont entraînés très bien tous les temps, ils sont apportés leur qualité et ça a été les grands réussis de cette équipe.
Un turnover forcé, les Parisiens vont enchaîner trois matchs en six jours avec un point d'orgue, la réception du Bayern Munich mardi prochain en Ligue des Champions. Mais ce rythme effréné ne semble pas pousser Luis Enrique à changer de gardien de but. Surprenant pour Jérôme Alonso, consultant la chaîne L'Équipe.
Il y aurait eu un match avant le Bayern. Il n'y a pas de débat, Safonov a besoin de jouer, d'enchaîner. Mais t'as deux matchs. Et tu peux remettre Lucas sur un match pour, justement, s'il arrive un pépin à Safonov plus tard, mais au moins Lucas, il a joué un petit peu. Tu vois, il a des repères, il a revu les gars, il a rejoué, il a remis un peu les gants. Dans un match officiel, c'est important aussi.
Lucas Chevalier n'a pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis trois mois.
Et toujours en foot, notez la qualification hier soir de Lens en finale de la Coupe de France. Sa première depuis 1998. Deuxième demi-finale, ce sera ce soir. Strasbourg accueille Nice à 21h. Ce sera à suivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Châteaubriand.
Départ à 13h55. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, le numéro 5, Joyce Delto. L'outsider, c'est le numéro 9, Yalto Dertals. Le 5 et le 9.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Après les annonces de Sébastien Lecornu, les précisions du ministre de l'économie, Roland Lescure. Écoutez, c'était aux 20h de France 2 hier soir.
Il y a des gens qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour aller travailler ou pour travailler. On a parlé d'aide-soignants, d'infirmières, etc. Et que cela, il faut qu'on les aide particulièrement. En dessous de 17 000 euros par an, ça représente 20 centimes par litre d'essence au plein.
En dessous de 17 000 euros par an, vous l'avez bien entendu. Bonjour Daniel Guilherme, vous représentez les infirmiers de France. Le ministre vous a cité hier, il a dit qu'il allait vous aider. Sauf qu'il y a très peu d'entre vous qui toucheront concrètement cette aide de 20 centimes par litre. Et vous ne décolérez pas. J'aimerais aussi vous entendre, vous qui nous écoutez. Est-ce que vous avez fait le calcul à la fois sur les aides? Est-ce que vous les toucherez? Et puis de combien? Combien ça vous coûte aujourd'hui? Je vous attends au 32-16. Il est 7h38.
RMC. jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Après plus de 50 jours de guerre au Moyen-Orient, le gouvernement se résigne à aider les Français. 20 centimes d'aide pour les gros rouleurs les plus modestes, ça concerne, disent-ils, 3 millions de personnes. Mais ce sont des aides évidemment très ciblées. Et puis des aides renforcées pour les pêcheurs, les agriculteurs, le BTP et puis les oubliés. Bonjour Daniel Guilherme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers. Les infirmiers, ils ont été cités hier par le ministre de l'économie. Mais concrètement, est-ce que vous avez l'impression que vous serez concerné ?
Écoutez, non, si on regarde en tout cas les caractéristiques des contraintes en fait à apporter pour être éligible aux aides, on a plutôt le sentiment d'être dans une éviction déguisée. C'est-à-dire que les plafonds en fait qui sont mis sont tels qu'il y aura très peu d'infirmiers libéraux à être éligibles.
Vous serez juste au-dessus des seuils. Je précise effectivement qu'il s'agit d'une aide de 20 centimes donc par litre pour les professionnels qui roulent plus de 30 km par jour ou 8000 km sur un an et qui touchent moins de 17 000 euros par an.
Oui.
Et ça, c'est pas le cas pour vous. Pour les infirmiers libéraux.
Certainement pas en moyenne. Alors il y aura peut-être quelques cas en fait de professionnels, des femmes isolées ou des familles monoparentales avec des enfants qui pourront effectivement le toucher.
Mais
voilà, mais de manière générale, non, absolument pas.
Quelle est la situation aujourd'hui des infirmiers libéraux ? On a entendu certains, et d'ailleurs on a eu le témoignage de Sophie, par exemple, à notre antenne, qui dès le début, dès les premières semaines, disait « mais moi je ne vais pas m'en sortir et donc je ne prendrai pas de nouveaux patients. Et puis, si les actes ne sont pas augmentés, je n'y arriverai pas. »
On sort d'une négociation conventionnelle avec l'assurance maladie, mais on a un cadre réglementaire qui fait que nous ne pourrons pas en fait toucher ces nouvelles valorisations avant le mois de novembre. Donc on est dans une période là aujourd'hui de tension en tout cas sur les prix du carburant et aujourd'hui effectivement cela peut poser quelques problèmes de trésorerie pour certains cabinets.
Les problèmes de trésorerie parce qu'effectivement, et ça c'est quand même un des points, je vous le disais quand vous êtes rentré dans ce studio parce que personne n'est capable vraiment de me répondre là-dessus. Le déplacement, ça fait partie de la profession, le coût donc de ce déplacement est censé pouvoir être déductible, ce sont des frais. Donc ok, c'est très dur sur le moment de les sortir, mais normalement, vous devriez les récupérer en frais réels à la fin en déduction d'impôts.
Alors il y a deux modalités hein, de déduction des frais kilométriques, c'est soit au réel, où effectivement vous gardez vos tickets de carburant et vous les déduisez ensuite, ou alors vous êtes au forfait. La majorité des professionnels aujourd'hui libéraux sont au forfait. Donc on a des forfaits qui sont posés dans le cadre réglementaire. Et donc aujourd'hui, on n'aura pas cette possibilité-là. Donc on n'aura pas de prise en compte de la hausse du carburant.
Est-ce que vous menacez d'arrêter de prendre certains actes, de prendre en charge, et je le comprendrais très bien, hein, je veux dire, vous faites les calculs et vous vous dites qu'il y a certains actes qui sont payés trop peu et qui nous demandent trop d'efforts, on ne les fera plus?
Écoutez, il y a une semaine, on a lancé un mot d'ordre, nous, à la Fédération, d'arrêt des prises en charge en sortie d'hospitalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais en tout état de cause, on ne prend plus de nouveaux patients qui sortent de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà des professionnels qui s'étaient de manière, en cas d'usage en tout cas, lancés là-dedans, puisque effectivement, il y a une sélection des patients qui s'opère en fonction de la distance qui sépare le patient du cabinet infirmier. Donc les professionnels aujourd'hui font des économies, en tout cas sur leur tournée. Ouais.
Est-ce que ça veut dire que vous demandez des aides spécifiques ? Vous espérez encore pouvoir
écoutez,
en obtenir ?
On voit très bien que hier soir, le Premier ministre a eu deux approches. Une approche économique et une approche par métier. On a été, nous, évincés de l'approche métier, alors que d'autres le sont, les taxis, les VTC. Et donc, c'est pas un oubli, en fait, hein, on le voit très bien, c'est pas un oubli, c'est un choix politique. Ce choix politique, de notre point de vue, il est incohérent, il est injuste et il est intenable. Alors pourquoi il est incohérent ? On peut pas demander à la profession de soutenir l'approche domiciliaire et d'un autre côté de ne pas l'aider pour le faire. Premier point. Deuxième point, il est injuste parce qu'on le voit très bien, il y a eu un choix politique. Certains approchent métier, d'autres approchent économique. On nous met dans l'approche économique. Et enfin, il est intenable. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que vous avez en fait des carburants qui sont taxés à plus de la moitié de la valeur du litre. Et que dans ce cadre-là, on a quelque chose qui ne permettra pas, en tout cas, d'arriver aux objectifs qu'on a, c'est de développer les soins et le maintien à domicile des patients âgés.
Et il y a de nombreux auditeurs qui nous appellent au 3216 pour témoigner aussi de leur situation. Christophe et David sont avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Christophe, vous êtes commercial à Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. Vous vous retrouvez à faire beaucoup de routes, notamment du transport, mais sans avoir la qualification transport. Donc les aides, vous les toucherez pas.
C'est ça. En fait, moi, je suis pas commercial, je suis commerçant.
D'accord.
Donc je vends de la peinture.
Okay.
Voilà, un produit pétrolier déjà qui a pris plus de 12 à 17 % que je peux pas récupérer à mes clients puisque les prix de mes clients sont déjà fixés pour l'année.
D'accord.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai deux marchés publics. Mon entreprise fait je vais être très factuel comme ça
allez-y, au contraire, c'est formidable. Voilà. On vous suit.
Mon entreprise fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai deux marchés publics qui représentent 60 000 euros de chiffre d'affaires. Mais dans ces marchés publics, je dois livrer sur deux départements. Donc, deux départements, c'est le 04 et le 05. Ça fait énormément de kilomètres à faire. Puisqu'on est dans les montagnes et qu'on travaille en kilomètres. Ça, c'est la même, c'est le truc. Sur ces marchés publics, donc, 60 000 euros, c'est 15% de mon chiffre d'affaires annuel. Sur ce marché public, une fois que j'ai payé tous les employés, tous les investissements en machines, tout ça, il me reste 1,5% de résultats, c'est-à-dire entre 600 et 900 euros. Si le marché continue comme ça, si la guerre va durer un an, le même marché public me coûtera 1200 euros. C'est-à-dire que je vais perdre 1800 euros rien qu'avec les frais d'essence.
Ça, avec les frais d'essence et de transport, voilà. Parce que vous allez livrer la peinture.
Exactement. C'est quelque chose qui est factuel. J'ai demandé à exercer un cas de force majeure pour réajuster mes prix sur ces marchés publics.
Ouais.
Ça m'a été refusé parce qu'on m'a dit que le cas de force majeure n'était pas caractérisé dans ce cas de figure.
Donc ils n'ont pas accepté de revoir à la hausse le prix de ce marché.
Exactement. C'est la même chose pour tous mes clients que mes marchés publics qui travaillent pour appliquer de la peinture pour des marchés publics. Leurs prix ne sont pas réactualisés. Donc forcément, ils me refusent des augmentations sur les marchandises. Donc sur cette année, si on continue sur ça, les petites entreprises comme moi vont perdre énormément d'argent. Voilà.
C'est extrêmement clair. Vraiment, on a l'impression avec vous de vous accompagner dans un problème de mathématiques où on fait des multiplications, des soustractions et où on arrive effectivement à ce résultat à la fin qui est que vous allez vous retrouver à devoir travailler à perte. Christophe, restez avec nous. Il y a aussi David. David qui, lui, est travailleur indépendant dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour David.
Oui, bonjour Apolline.
Vous faites quoi, vous, dans la vie et quel est l'impact?
Donc voilà, moi je travaille pour des applications en crowdsourcing, c'est-à-dire je suis payé à la tâche, je fais des visites mystères, des contrôles de positionnement de produits en grande distribution et magasins spécialisés. Donc tous les jours, je regarde très tôt le matin ce qu'il y a de disponible, je sélectionne une mission, je les fais en fonction des secteurs géographiques où j'ai le plus de travail.
Okay.
Et là, j'ai décidé de réduire déjà depuis des années mes déplacements parce que on est tellement taxé que ça devient de moins en moins rentable, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'on fait en indépendant, c'est pour faire du chiffre et du bénéfice si possible. Et là, au vu du coût de mes déplacements, je reste dans le département et à la rigueur l'Aude à côté.
En fait, vous réduisez votre activité.
J'avais déjà réduit avant parce que Monsieur Macron a augmenté sans qu'on en parle beaucoup. L'année prochaine, on sera à 5 points de plus de cotisation URSSAF. Donc, on arrive à 26% au lieu de 21%, ce qui fait beaucoup quand on a un petit indépendant à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai réduit volontairement déjà avant. Parce que
vous êtes au-dessus ou en dessous des 17 000 euros nets par an?
Le problème, c'est que nous, quand on compte nos revenus, on se base, les impôts se basent sur notre chiffre d'affaires. Donc, on a quand même une façon de. Bon, c'est un peu curieux, mais bon, mon ami, on est tous les deux, il est en freelance aussi comme moi, il travaille à la maison, et on compte notre imposition de la même façon, alors qu'il n'y a pas de déplacement. Vous voyez, c'est un peu.
Vous rentrez dans aucune case. C'est exactement ça, la grande difficulté. C'est que là, on met en place des cases. Alors, elles sont quand même toutes petites, déjà, pour rentrer dedans. Mais effectivement, on a quand même l'impression que chaque situation, à chaque fois, l'aide vous passe sous le nez. Merci David et Christophe. David, c'est la première fois que je vous accueille, non?
Ah Marcel... oui, c'est un plaisir de vous avoir.
Eh bah, ben, vous avez bien fait de passer là.
De travailler, ça me stimule et puis d'entendre les autres témoignages et puis bon. Votre enthousiasme, ça fait du bien. Mais on est découragé en France. Bon, bah, c'est... reprendre, c'est une horreur.
Ça au moins, c'est gratuit l'enthousiasme. Voilà, ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Mais pour autant là, franchement, vous aimeriez du sonnant et trébuchant et je le comprends bien. Il est 7h51. Merci à tous les deux d'avoir témoigné et merci à vous évidemment, Daniel Guilherme, d'être venu donner aussi votre point de vue, celui des infirmiers libéraux, une fois de plus, les oubliés. Il est 7h51. Louis Sarkozy est rentré dans ce studio. Salut Louis.
Bonjour.
Après
Apolline.
Paris et Strasbourg, une salle de shoot pourrait ouvrir à Marseille. Et vous y êtes favorable, Louis?
Mais les salles de shoot, c'est peut-être désagréable, mais c'est moins de maladies, c'est moins d'overdoses, c'est moins de délinquance. Toutes les études le montrent. Il serait peut-être temps d'étudier le sujet.
Oui, aux salles de shoot, nous dit la voix de droite. Louis Sarkozy, dans un instant.
Sympa, cette droite.
N'hésitez pas aussi à réagir. Il est 7h52.
RMC, Apolline Martin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, ça va très vite pour Madonna.
I feel so free. Je me sens si libre. C'était le premier extrait dévoilé la semaine dernière. L'album est attendu pour le 3 juillet. Mais Madonna, qui promet une ambiance très dance floor, on en a parlé. Et un plan de communication qui est déjà bien en place. Madonna qui a fait une apparition surprise au festival Coachella en Californie en plein concert de Sabrina Carpenter. Il y a comme une filiation. Vous les entendez reprendre Vogue devant des dizaines de milliers de spectateurs. Et elles ont aussi dévoilé un nouveau titre, un titre en duo. Bring Your Love. Petit couac en revanche, chapeau. Pendant le concert, pendant le duo Sabrina Carpenter-Madonna, la diva s'est fait dérober ses tenues, un costume, des archives, une veste, un corset, entre autres. Ce ne sont pas de simples vêtements, dit-elle. Ils font partie de mon histoire, déplore Madonna, qui veut tellement retrouver ses tenues qu'elle promet désormais une récompense pour leur...
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h54 sur RMC et RMC Story, c'est le jour de la voix de droite. Ce matin, c'est vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Après Paris et Strasbourg, faut-il ouvrir une salle de shoot à Marseille? La ministre de la Santé s'est prononcée hier en faveur de cette expérimentation. Les habitants y sont opposés, ils craignent de voir s'installer près de chez eux davantage de toxicomanes, du trafic. Sauf que pour vous, Louis, c'est sans appel, les salles de shoot, c'est oui.
Les faits, Apolline, sont des choses têtues. Il reste des faits, il reste vrai qu'on les aime ou non. Depuis 50 ans, la France a tout misé sur le répressif. Résultat, plus de drogués, plus de morts, plus de trafic, des prisons pleines et des quartiers entiers abandonnés aux dealers.
Vous êtes donc favorable aux salles de shoot ?
Je suis favorable à ce qui marche, c'est-à-dire à ce qui fait baisser les overdoses, à ce qui diminue le crime et ce qui augmente la santé publique. Et les salles de shoot, pardon, ça marche. Il suffit de regarder les études, il suffit de regarder les chiffres.
Quels chiffres ?
Prenons le Portugal. En 2001, Lisbonne décriminalise l'usage de toutes les drogues. Pas légalisé, décriminalisé. On sort le consommateur du tribunal pour le confier au médecin. 25 ans plus tard, mort par overdose divisé par 5. Nouvelle contamination VIH chez les usagers en chute de 90%. Consommation chez les jeunes en baisse. Et le Portugal est passé du pire élève d'Europe au modèle cité partout dans le monde. C'est pas un rêve de militant, c'est pas une chimère, c'est un fait mesuré par l'OMS.
Est-ce que c'est pas un cas unique? Est-ce que vraiment on peut faire pareil?
Alors prenons le cas suisse. Le cas suisse est encore plus spectaculaire. Souvenez-vous de Platzspitz, le Needle Park de Zurich à la fin des années 80. Des seringues partout, des cadavres chaque semaine. Le pire de la misère à ciel ouvert. Les Suisses ont fait exactement ce que certains Marseillais redoutent aujourd'hui. Salle de consommation, prescription médicale d'héroïne pour les plus dépendants. C'est la fameuse politique des quatre piliers. Je ne sais pas si vous en souvenez. Prévention, thérapie, réduction des risques, répression. Le bilan, très simple. Mort par overdose divisé par deux, VIH chez les usagers effondré, la petite délinquance liée à l'héroïne, celle qui gangrène Marseille, vol, cambriolage, arrachage, a chuté à près de 90%. Un toxicomane qui reçoit sa dose à l'hôpital n'agresse plus votre grand-mère dans le métro. Et le plus beau, les nouvelles entrées en dépendance ont chuté de 80%.
Bon, ça paraît quand même un peu fou. Comment vous expliquez du coup les derniers paradoxes?
Mais c'est ça tout le génie de l'approche. Dès qu'on sort la drogue du romantisme, de la rébellion pour la rattacher à un centre médical et à des gens malades, elle perd son attrait chez les jeunes. La prohibition, paradoxalement, vend la drogue. Elle lui donne le frisson, l'interdit, la transgression. Le médecin, lui, la tue symboliquement.
Les Marseillais disent la ville n'a pas besoin de ça. On peut les comprendre quand même.
Oui, je les comprends aussi, vraiment qu'on se trompe pas. Mais je pense qu'ils se trompent d'ennemis. Ce qu'il voit tous les jours, les seringues dans les cages d'escalier, les consommateurs à ciel ouvert, les guetteurs de 12 ans, c'est précisément le résultat de l'absence de salle de shoot. Pas sa conséquence. La salle, c'est ce qui fait disparaître la drogue de la rue. L'étude de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale sur la salle de shoot Gaïa à Paris. Alors oui, on peut ne pas aimer le concept, mais elle le montre très clairement. Baisse nette des seringues au sol, baisse des injections publiques, baisse des passages aux urgences. On sort le problème de l'espace commun et on le traite et on le contrôle comme l'addiction est un phénomène médical.
Est-ce que c'est une ligne libérale ça, Louis Sarkozy ?
Mais la ligne libérale, en vérité, Apolline, elle tient à une phrase. L'État a pas à me dire ce que je mets dans mon corps. Ce n'est pas son rôle. Mais il doit protéger les citoyens de ce que le trafic fait à leur ville. Or, aujourd'hui, la guerre à la drogue coûte des milliards, remplit des prisons, engraisse les cartels et ne sauve personne. C'est le plus beau gâchis libéral qu'on puisse imaginer. De l'argent public en plus, de la liberté en moins et aucun résultat.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux Marseillais ?
Qu'on ne leur demande pas d'aimer la drogue. On leur demande d'accepter que la réponse répressive a échoué dans leur ville. Montesquieu, dans l'esprit des lois, posait une distinction décisive. Il ne faut jamais confondre entre le vice et le crime. Le vice regarde Dieu, la conscience, la famille. Le crime, lui, regarde la loi. Se droguer est un vice et on peut le détester. Mais ce n'est pas un crime. Montesquieu avait raison, on ne gouverne pas les hommes par des interdits infinis. Marseille vit cela depuis toujours. Le répressif, a échoué. Il serait peut-être temps d'essayer autre chose.
Notre voix de droite, Louis Sarkozy. Donc oui, aux salles de shoot. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.